bah c'est le bullshitomètre. C'est parti. Chaque jour, un expert de marché vient aussi déconstruire une idée reçue, défaire consensus un petit peu trop facile à ses yeux en bourse. Aujourd'hui, c'est Thibaut Prébé qui nous accompagne pour La Financière Arbevel. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Bienvenue. On est en plein mois de mai, ça se voit pas dehors, mais on est en plein mois de mai. Voilà. Et l'adage boursier dit « Sell in May and go away ». Faut vendre au mois de mai. Voilà ce que dit l'adage. Ben pour vous, pas du tout, cet adage même est bullshit. Vous foudroyez cette idée qu'il faudrait vendre au mois de mai. Et vous la foudroyez d'autant plus en ce mois de mai 2024, Thibaut.
Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant. On nous dit toujours en début d'année, cette année, les marchés vont prendre 10. Hein, c'est un peu l'objectif qui est donné sur la plupart des sociétés par les brokers comme sur la plupart des marchés. Or, on se retrouve avec tous les marchés qui ont quasiment pris 10 depuis le début de l'année. Et donc, avec ce scénario assez facile de se dire, bon, bah, hein, c'est le moment de sortir, on prend nos bénéfices.
Ah oui.
Et ce n'est pas du tout mon avis.
Oui. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas votre avis? Le marché a bien progressé, c'est vrai. Sell in May and go away. Pourquoi, pour vous, ce n'est pas le moment de vendre?
Bah, plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut voir d'où on vient. On vient d'un marché dans lequel on a eu une crise historique en 2022 qui a été la pire globalement sur les portefeuilles. Quand on a eu des choses en 2008 qui étaient moins violentes, avec une, entre autres une composante obligataire qui avait mieux tenu, on a eu de très nombreuses années de hausse. Donc, quand on voit des indices, certes, qui battent des records, mais qui battent des records après être tout juste revenus au point haut 2 ans après, c'est quand même pas non plus incroyable, alors que les résultats ont continué de progresser. Donc ça, c'est un premier point. Certes, on a un bon début d'année après une bonne année, mais il ne faut remettre dans son contexte et pas oublier que ça vient après un énorme trou de 2022 qui, sur de nombreuses classes d'actifs, est encore à combler. Et on est très loin sur l'obligataire, sur certains marchés actions.
Oui. Est-ce que, à vos yeux, le marché a néanmoins quand même déjà pricé les baisses de taux? Parce que l'argument de ceux qui pensent que le marché va encore continuer de progresser, de ceux qui pensent qu'il ne faut toujours pas vendre, c'est qu'on a devant nous des baisses de taux. Mais parfois, le marché, il anticipe les baisses de taux. Puis il y a ce phénomène, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Est-ce que ça nous pend pas au nez pour la suite? Un marché qui vendrait la nouvelle quand les premières baisses de taux arriveront?
Alors, c'est un argument qui est très intéressant, qui est oublié deux choses, en fait. C'est évidemment tenir compte du fait que le marché anticipe, ce qui est vrai, hein, le fait que les taux vont aller baisser. C'est quelque chose qu'évidemment, on voit, c'est quelque chose que tout le monde a en tête, avec des vues qui sont maintenant assez consensuelles sur la capacité de l'Europe à avancer assez rapidement et les États-Unis à être beaucoup plus mous sur ce thème. Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui fait driver le marché, c'est les flux. Les flux, ils arrivent au moment où les choses se passent, pas toujours avant. Aujourd'hui, vous avez décidé de placer votre argent sur un fonds monétaire, parce qu'il vous rapporte du 4, du 5, selon l'endroit où vous êtes, de quel côté de l'Atlantique. Bah, en fait, tant que les taux sont à ce niveau-là, vous êtes bien, vous anticipez pas le fait qu'ils vont plus y être. Et le jour où ces taux baissent, peut-être en Europe un jour, et demain il sera, je sais pas moi, à 3 par exemple, ce jour-là, ça vous rapporte moins, vous avez peut-être envie de déplacer vos flux. Aujourd'hui, on a des flux importants vers la Chine, vers les small caps, vers beaucoup de marchés qui étaient un peu décotés. On peut penser que plus le monétaire va baisser en attractivité, plus ces flux vont se poursuivre. Et en fait, les flux, c'est pas toujours contrario à ce qui est anticipé, qui est un sentiment, ce qu'on appelle de fast market, des gens qui bougent très vite d'un côté à l'autre. Au contraire, il y a des flux plus lents qui viennent se déverser au fur et à mesure et qu'on commence à revoir venir. Et ces flux-là, bah, ils vont peser jour après jour sur des marchés où parfois il y avait que des vendeurs. Si un coup, il y a plus que des acheteurs, faut trouver du papier et ça pousse heure après heure.
Oui, et ce que vous dites aussi, c'est que on voit évidemment les performances, et on parle depuis tout à l'heure des performances des grands indices, mais il faut regarder aussi sous les grands indices, les courants un peu sous-jacents, sous la surface des marchés, celles que le grand public voit en priorité, et là on voit encore plus peut-être de promesses pour l'avenir, notamment dans l'univers des petites valeurs. On en parlera un peu plus précisément tout à l'heure, mais il se passe des choses aussi dans les petites valeurs qui sont peut-être encourageante sur la dynamique globale à venir en bourse.
Oui, on peut regrouper ça avec la Chine, par exemple. C'est-à-dire le type d'actifs qui était délaissé, qui n'était pas dans les flux, qui est en train de revenir. C'est vrai qu'il faut se rendre compte que sur une quinzaine d'années, le marché, il a ses marottes, ses darlings, comme on dit aux US. On pourrait dire c'est Valentine chez nous. Un moment, on parlait que des...
Ça sent le pari, ça. Vous avez fait un pari avec une Valentine, vous avez dit que vous allez la citer.
Pas du
tout. Vous venez de le faire.
Absolument.
Non, ça sent le pari quand même.
Non,
allez-y,
pas du tout. Pas du tout.
Bonjour à Valentine, je suis sûr qu'elle nous écoute.
Bonjour à Valentine, si vous voulez, quelle qu'elle soit. Le point est que quand vous avez votre darling, qui était à un moment les small cap, tout le monde achetait ça jusqu'à 2017. Oui. Ensuite, vous avez eu les fonds thématiques. Tout le monde voulait les fonds thématiques, vert, tech en Europe, qui ont très bien marché jusqu'à fin 2020. Et depuis, plus du tout. Et au contrario, on veut plus que des ETF large cap. Et donc, tout le monde achète des grandes capitalisations européennes, américaines. Et en fait, on regarde plus du tout ce qu'il y a derrière. Et alors évidemment, c'est moins drôle pour les gérants qui avaient l'habitude de voir le CAC 40 sous-performer tous les ans et acheter n'importe quoi d'autre et dire « je suis très fort ». Là, au contrario, avec l'essor du luxe, c'est ça qui a marché. Est-ce qu'au moment où tout le monde est en train de capituler en disant « il faut que des ETF », c'est pas le moment où il y a cette inversion qui se fait et où les marchés qui étaient moins achetés, les marchés des small, vous le disiez, les marchés de la Chine, où tout le monde est en train de dire « maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir que de l'Inde », c'est pas un mouvement qui est en train de se faire. Et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Et donc, c'est vrai que si... Et Ce qui est intéressant, c'est que ce marché, il suit aussi le précédent. C'est-à-dire que c'est le moment où, effectivement, sur les grandes valeurs européennes, américaines, on est malgré tout relativement bien valorisé, même si on n'est pas non plus dans des bulles. Bah, il y a un intérêt de l'investisseur à se dire, bah, ça a déjà monté, qu'est-ce qui va monter ensuite? Et à se déverser un peu vers des classes d'actifs qui sont plus en retard et moins valorisées.
Jean-Louis.
Justement, en parlant de marché un petit peu moribond, on est à peu près quoi? 10 mois de décollecte sur les fonds ESG aux États-Unis. La perf en Europe qui est pas terrible par rapport aux Américains. Est-ce que la hype verte en bourse est passée justement, ou est-ce que c'est l'un des secteurs qui sera le plus en renouveau, on va dire, si ce que vous nous dites se confirme?
Ah, c'est un gros sujet, hein. Nous on le voit, on a une expertise sur un fonds vert, notre fonds sustainable, qui a quand même repris peut-être 12% en quelques semaines. Donc dire que la hype est passée, c'est peut-être justement le moment où on fait ces constats, faut des ETF, faut plus ce genre de valeur, que c'est justement en train de s'inverser, parce qu'on est arrivé à des creux de valo sur ces thèmes contre des pics de valo sur le reste. Ce qui est intéressant, c'est de noter quoi? C'est de noter que il y a pas ESG et le reste. Effectivement, il y a la guerre qui nous a fait croire, penser en tout cas que peut-être que la défense c'était important, que si on manquait de pétrole ou de gaz, bah c'était peut-être pas idiot d'en faire. Et donc on a un peu réhabilité certaines valeurs qui étaient devenues des parias. Mais à côté de ça, il faut pas séparer ça de son contexte. C'est-à-dire que des valeurs vertes, c'est quoi? C'est des valeurs qui ont besoin de visibilité pour des projets de très long terme. Donc de taux bas. Quand les taux ont beaucoup monté, ça donne pas tellement envie au marché d'acheter ces projets. Et ça, finalement, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit ESG ou pas, c'est juste des valeurs taux. De la même manière, bah, quand les chaînes d'approvisionnement étaient difficiles, bah, on avait du mal à monter des projets. Et donc, on a vu beaucoup de projets qui étaient à l'arrêt, et beaucoup d'acteurs, hein, y compris européens, des Neoen, des Nordex, qui parfois repoussaient des projets en disant « Aujourd'hui, économiquement, c'est compliqué, il vaut mieux attendre un peu. » On se rapproche quand même de taux qui arrêtent de monter, qui se stabilisent, voire qui pourraient rebaisser un peu. Plus de visibilité qui sont données. Et donc, voilà, on a un marché qui s'y intéresse un peu plus. On a vu pas mal d'OPA hein, sur le secteur. On a vu des grands acteurs du monde du private equity venir racheter des Encavis ou des sociétés avec parfois des primes de 50%. Donc, vous vous dites, quand certains gens qui sont plutôt pas idiots rachètent avec plus 50% des valeurs et a priori avec l'idée de gagner de l'argent encore dessus, c'est quand même qu'on atteint des niveaux de décote. Donc, est-ce que la mode de « je veux que du vert, je veux plus de pétrole et d'armement » est passée? Oui. Est-ce que pour autant, on n'est pas allé un peu loin dans ce mouvement? Et on n'est pas désormais dans, quelque part, un intérêt qui revient sur une logique presque value sur ce secteur, qui était auparavant exactement à l'opposé. Peut-être que si. Donc c'est intéressant de voir que, justement, peut-être que ce mouvement où on délaisse arrive dans sa phase de ce qu'on appelait avant le bottom fishing. Je ne connais pas de bottom fishing à saluer. Mais où, justement, on se dit, maintenant, il y a des trucs qui sont hyper en retard. Et c'est le moment de les ramasser. On est peut-être un peu là-dedans. Donc, encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce marché et des points de regain d'intérêt de marché sur certaines zones que beaucoup attendaient. Je pense que c'est pas au bout de 5 ou 10% de correction sur des indices qui sont encore très en dessous de leur plus haut précédent. Vous citiez les petites et moyennes valeurs, mais je pense que la Chine est exactement dans la même logique. Je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour dire qu'il n'y a plus rien à faire dans ce marché en 2024.
Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On parlera tout à l'heure dans le club, dans quelques minutes, dans 6 minutes, hein, le club d'NVIDIA. Ça vous dit?
Et Total, j'ai vu que ça vous parlait.
Oui, Total Energy aussi.
Avec plaisir.
Vous imaginez la vie, vous imaginez la vie sans Nvidia, une poursuite à la hausse des marchés sans une belle publication d'Nvidia ce soir?
Ouais, c'est exactement un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que dans d'autres marchés, on a besoin d'un ressort des choses en retard. On peut pas monter toujours que sur les mêmes valeurs. Beaucoup de valeurs qui avaient amené très haut, d'abord Microsoft, puis Apple, à ces niveaux-là, ont souvent un peu calé ensuite, en se rendant compte que maintenant, il fallait d'autres ressorts. On le voit d'ailleurs avec Apple, hein, qui était une des moins bonnes performances de ces top valeurs cette année. Les fondamentaux sont intéressants, le sentiment que la hype sur l'IA est un peu en train de se rabaisser, qu'il y a d'autres acteurs, donc voilà, sans catastrophisme, on peut considérer que le marché peut monter sans Nvidia, mais, et je finirai là-dessus, je vous rappelle que les options en termes de volatilité, qui sont très présentes aux États-Unis, nous disent que le mouvement de Nvidia est attendu à plus 8 ou moins 8 aujourd'hui, oui. C'est-à-dire une amplitude de 8%, ça c'est une nouvelle donne, avant c'est très grosse valeur sur les capis, ça faisait 1 ou 2, ça fait depuis un an maintenant qu'on s'est habitué à des swings à 10-15% sur les GAFAM, c'est un autre marché, c'est intéressant, oui. On va scruter ça ce soir à la clôture.
C'est bizarre hein, quand même, des grosses planètes comme ça, mais qui évoluent comme des bolides.
Enfin, ça coûte 100 à 200 milliards, de bouger d'un côté ou de l'autre, hein, ça fait bizarre.
Incroyable, effectivement.